talmudique. Il y a un temps pour tout, dit le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, et chaque chose a son heure sous le ciel. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour embrasser et un temps pour repousser les caresses, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour oublier et un temps pour se souvenir, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ces deux derniers versets résonnent particulièrement quand on pense à tous ces artistes, hommes ou femmes, tombés un jour dans l'oubli, au point de devenir d'illustres inconnus, comme l'on dit, et qui un jour, beaucoup plus tard, mais jamais trop tard, à la faveur d'un je ne sais quoi de l'humeur du temps, ou des efforts déployés par les nouvelles générations, se retrouvent dans la lumière et le printemps des regards, en faisant naître cette question plein d'étonnement, mêlée à une petite pincée de honte, comment n'avions-nous pas vu plus tôt? Comment avions-nous pu oublier la richesse et la beauté d'une telle œuvre? Commence alors une effervescence bien méritée qu'il faut organiser avec subtilité pour que, en un autre excès, l'œuvre ne soit pas noyée dans le flot d'un trop-plein de visibilité qui en recouvrirait la variété, la profondeur, la nouveauté et l'originalité. C'est précisément dans ces tensions entre oubli et souvenir, entre silence et parole, qu'évoque l'Ecclésiaste, que surgit aujourd'hui l'œuvre magnifique de Shana Orloff, sculptrice à l'immense talent, l'une des artistes les plus importantes du XXe siècle, à laquelle nous consacrerons l'émission de cette semaine et de la semaine prochaine, en compagnie de Pascal Samuel, conservatrice de la collection d'art moderne et contemporain du MAJ, musée d'art et d'histoire du judaïsme, et de Cécile Champy, directrice du musée Zadkine à Paris. Mesdames, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wachnin.
Dites-nous pourquoi on peut parler, comme je vous ai entendu le faire, Pascal Samuel, d'une véritable saison Shana Orloff.
Bah effectivement, là depuis le milieu du mois d'octobre, le public a la possibilité à la fois de découvrir le travail de Shana Orloff à travers la magnifique rétrospective qui lui est proposée au musée Zadkine, mais également une exposition, même une installation plus modeste au MAJ autour d'une œuvre qui a été spoliée, qui a été restituée récemment à la famille. Et puis, bien sûr, la visite de l'atelier de Shana Orloff, puisque on a la chance, et c'est assez rare, d'avoir encore l'atelier de Shana Orloff visitable, ouvert au public, et ses collections, et la possibilité donc de visiter l'atelier de Shana Orloff, puisqu'il y a encore dans le 14e arrondissement l'atelier de l'artiste qui aujourd'hui est ouvert régulièrement au public, où on peut voir les collections qui y sont conservées.
Il y a une question majeure qui concerne cet artiste, c'est son nom. Comme on peut l'entendre de la bouche de différentes personnes qui parlent de cet artiste, certains disent Shana Orloff et d'autres disent Shana. Cela mérite explication et cela pourrait être le point de départ de quelques éléments biographiques, Cécile Champy.
Oui, alors effectivement, elle s'appelle Shana, mais quand elle arrive en France en 1910 à 22 ans, elle ne parle pas bien français. Et quand elle passe la frontière, il y a un fonctionnaire qui lui demande comment vous vous appelez et qui ne comprend pas bien en fait. Et il écrit Shana, Shana Orloff, et elle va garder ce prénom de Shana pendant toute sa vie. Et quand on parle encore avec ses petits-enfants, hein, qui administrent aujourd'hui avec beaucoup de passion l'atelier-musée, eux disent toujours Shana, donc voilà.
On entendra et on dira peut-être nous-mêmes parfois Shana et parfois Shana. Si j'ai insisté sur la question du nom, des noms, c'est parce que je crois que cette question, comme nous le verrons la semaine prochaine, traverse toute l'œuvre. Mais si nous choisissons de prononcer Shana, le mot signifie en hébreu, qui est une des langues parlées par l'artiste, ça signifie à la fois l'année, le changement, la différence. L'année est un autre mot avec saison, qui marque le temps et ses rythmes, comme l'est aussi le mot époque, si central pour Shana Orloff, qui dit un jour « ce que je veux, c'est sculpter l'époque ». C'est d'ailleurs le titre de l'exposition que l'on peut voir au musée Zadkine. Que signifie pour elle « sculpter l'époque » Cécile Champy.
Alors, effectivement, ce qu'elle dit, Shana Orloff, c'est qu'elle veut faire l'époque. Hein, c'est une interview qui est réalisée au début des années 60 pour une émission qui s'appelle Les Heures Chaudes de Montparnasse. Et le journaliste lui pose la question, mais Shana Orloff, qu'est-ce que vous vouliez faire avec votre sculpture? Et elle réfléchit un petit peu, puis elle dit, mais moi, je voulais faire l'époque. Et c'est vrai qu'on a repris l'expression en rajoutant le mot sculpture pour le titre de l'exposition, pour bien rappeler que c'est une sculptrice avant tout. Et c'est assez énigmatique. historique, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment que faire l'époque? Personnellement, je l'interprète comme une volonté, justement, de bien rappeler que c'est une portraitiste, qu'elle a voulu représenter tous les visages de personnalités importantes, connues, ou qu'elle appréciait beaucoup et qui vivaient en même temps qu'elle. Donc, garder la mémoire de ses contemporains. Après, ça peut vouloir dire aussi marquer son temps, faire un coup d'éclat, enfin se rendre célèbre. Il y a plusieurs interprétations possibles et ça reste assez mystérieux. Shanna Orloff, c'est une artiste, c'est une femme qui sculpte et qui dessine merveilleusement bien, mais c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup hein, dans ses interviews. Elle reste assez lapidaire. Et donc c'est vrai que il faut accepter que ça soit
que ça soit obscur.
Obscur. Ouais.
Voilà,
ouais.
Comme comme l'oracle de Delphes.
Voilà.
Alors, nous avons évoqué le musée Zadkine à plusieurs reprises. Pourquoi cette exposition Shanna Orloff au musée Zadkine? Quel lien avaient entretenu ces deux artistes? Se connaissaient-ils vraiment? Leur esthétique est, semble-t-il, très différente. Et pourtant, on a l'impression dans les salles du musée et qu'ils sont faits l'un pour l'autre.
Effectivement, faire une exposition Shanna Orloff au musée Zadkine, pourquoi? Alors peut-être déjà pour vos auditeurs qui ne connaîtraient pas le musée Zadkine, parce que c'est un tout petit musée. C'est l'ancienne maison-atelier du sculpteur Ossip Zadkine, qui est arrivé à Paris la même année que Shanna Orloff, en 1910, au même âge, il avait également 22 ans. Il s'est installé donc dans ce qui est aujourd'hui le musée Zadkine en 1928, et il y est resté toute sa vie. Il est extrêmement attaché à ce lieu. Il a créé dans ce lieu la plupart de ses œuvres. Et il y a un autre personnage important aussi dans l'histoire du musée, qui est la femme de Zadkine, qui était Valentine Prax, qui était une artiste peintre, qui a eu aussi une vraie carrière en parallèle de celle de son mari. Et c'est elle qui est restée après la mort de Zadkine dans la maison et qui a donné la maison, les œuvres, toute sa collection à la ville de Paris, qui en a fait un musée. Donc ça, c'est pour l'histoire de ce lieu. Et il y avait la volonté, vraiment, en organisant l'exposition Shanna Orloff au musée Zadkine, de faire un écho, vous voyez, entre deux maisons-ateliers, puisque, comme l'a dit Pascal, la maison-atelier de Shanna Orloff existe encore et se visite, même si elle est privée, puisqu'elle appartient toujours aux petits-enfants. Et on voulait faire un écho dans cette maison-atelier de Zadkine. Et puis ensuite, il y a beaucoup de points communs entre Zadkine, Inès et Shanna Orloff. Inès, la même année, tous les deux dans ce qui est alors l'Empire russe. Alors lui, dans l'actuel Biélorussie, elle dans l'actuelle Ukraine. Ensuite, ils arrivent à Paris la même année. Ils sont souvent comparés par la critique de l'époque parce qu'ils présentent aux mêmes expositions, au salon d'automne. Enfin, il y a énormément de points communs. On sait qu'ils se connaissaient. On a retrouvé, pour l'anecdote, l'adresse de Shanna Orloff dans un des répertoires de Zadkine. Mais on n'est pas sûr qu'ils s'appréciaient vraiment. Parce que, comme vous l'avez dit, ils ont deux œuvres quand même très différentes. Zadkine n'est pas du tout un portraitiste, alors que Shanna Orloff va se faire connaître grâce au portrait. Donc, il y a des points communs. Il y a aussi des différences. Mais c'est ce qu'on voulait montrer dans cette exposition, qui est avant tout une vraie exposition sur Shanna Orloff. Même si on a tenu à faire des dialogues quand c'était juste avec l'œuvre de Zadkine, parce qu'on reste chez Zadkine. C'est un peu Zadkine qui invite Shanna Orloff.
Alors Zadkine invite Shanna Orloff, mais ce sont deux autres artistes, des peintres, émigrés comme eux, Soutine, arrivé à Paris en 1912, et Modigliani, arrivé un peu plus tôt en 1906, qui furent les soutiens inconditionnels de Shanna Orloff et qui la poussèrent à abandonner la peinture pour la sculpture. Quel est le rôle exact de ces mentors qui étaient en fait tout simplement de très bons amis du milieu de Montparnasse, de jeunes artistes de la même génération? Pascal Samuel.
Effectivement, on peut pas parler vraiment de mentor. Là, je pense qu'on peut parler de compagnonnage. C'est-à-dire qu'effectivement, on a là toute une génération d'artistes qui arrivent des quatre coins du monde et notamment d'Europe centrale et orientale, qui s'installent à Paris au début des années 10. Et donc, c'est vraiment un compagnonnage. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes ensemble. Ils participent ensemble à la vie des ateliers et des académies libres qui sont ouvertes dans Paris. Donc oui, ils travaillent ensemble, j'ai envie de dire, l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas vraiment encore de mentor. C'est la postérité qui fera que finalement le nom de Chagall, de Zadkine, de Modigliani, de Brancusi seront plus connus que celui de Shanna Orloff. Mais voilà, ces artistes ont travaillé ensemble, les uns à côté des autres, en tout cas au début, et arrivent à Paris dans les mêmes années. Ce sont des hommes et des femmes de la même génération.
Alors pourquoi Modigliani et Soutine, par amitié, lui l'invite à être plus sculptrice que peintre?
Alors ça, on n'a pas les détails. Il faut aussi penser que l'artiste, enfin quand on regarde la carrière de Modigliani qui est intéressante, parce que aujourd'hui on le connaît principalement comme peintre, or c'était au départ un homme qui voulait être sculpteur. Donc je pense que les artistes peuvent essayer plusieurs médiums avant de choisir le chemin qui va devenir le chemin principal qu'ils vont emprunter. Modigliani va faire le choix de la peinture plus par raison, c'est-à-dire que c'est plutôt sa santé qui va l'amener à abandonner la sculpture au profit de la peinture. Là, en l'occurrence, clairement, chez Shana Orloff, on a une artiste qui voit le volume, qui aime la matière, et c'est vraiment dans ce domaine qu'elle va s'épanouir. Mais les œuvres graphiques qu'elle nous a laissées, notamment les gravures des années 10, sont excellentes, tout comme Rodin était un excellent dessinateur.
D'ailleurs, Shana Orloff, je crois, faisait des dessins très très sophistiqués avant de se lancer dans la taille directe, soit du bois, soit de la pierre, Cécile Champy.
Oui, effectivement, puisqu'en fait, quand elle arrive à Paris, c'est pour apprendre la couture au départ. Donc, elle n'a pas tellement de vocation artistique, contrairement à d'autres, comme Modigliani, qui vient vraiment à Paris pour apprendre la peinture. Et elle, c'est parce que, justement, pour coudre, elle prend des cours de dessin, puisqu'elle dessine les patrons, enfin, les modèles des robes. Et c'est à ce moment-là qu'un de ses professeurs trouve qu'elle dessine vraiment bien et qu'elle devrait continuer et prendre des cours plus sérieux, si je puis dire. Et c'est comme ça qu'elle passe le concours et elle est admise à l'école des arts décoratifs.
Admise deuxième,
oui, ça c'est, c'est une légende un petit peu, parce qu'apparemment on a demandé à un chercheur qui a écrit dans le catalogue de se pencher sur la question et en fait il n'y aurait pas eu de classement, enfin bon bref, donc c'est peut-être elle qui a ensuite enjolivé les choses, mais oui, en tous les cas, elle réussit à être admise dans cette école et elle apprend le dessin de façon assez académique et en même temps elle rencontre tous ces artistes de Montparnasse et découvre la sculpture en allant, ce qu'elle raconte, hein, dans un atelier, voir un sculpteur, et elle se moque un peu de lui parce qu'il a du mal à sculpter, et quand il voit qu'elle rigole, il lui dit « mais si tu crois que c'est si facile, fais-le ». Et du coup, elle rentre chez elle, et elle modèle la glaise, et là, il lui dit « ah bah, faut continuer ». Bon, c'est un peu, là encore, on est peut-être dans
la belle légende,
mais elle a dû avoir quand même une révélation, oui, en découvrant la sculpture, et...
Mais c'est quand même intéressant de le souligner.
Pascal Samuel.
Elle commence par la couture. La couture, derrière la couture, c'est le corps qui s'exprime. Donc il y a dès le départ, dans la formation et dans le talent de Shana Orloff, un rapport au corps et donc à la troisième dimension. Et ça,
au volume.
Finalement, de la couture à la sculpture et au volume, il y a quelque chose de très naturel.
Ce qui est important de signaler, c'est que avant de venir à Paris, elle passe plusieurs années, 5 années, en Israël, enfin en Palestine ottomane de l'époque, puisque elle a fui en 1905 les pogroms d'Ukraine qui avaient eu lieu en 1903 avec toute sa famille. Elle fait sa scolarité en Palestine ottomane de l'époque. Là, elle commence aussi déjà des cours de couture et c'est de la Palestine qu'elle va à Paris. Et ça, c'est important. Et j'ai pensé à cet épisode où Modigliani lui a d'ailleurs fait un portrait sur lequel il écrit son nom en hébreu, Chana bat Raphaël ou bat Raphaël. Chana, fille de Raphaël. Raphaël étant à la fois le nom de son père, celui de l'ange de la guérison et bien sûr de l'immense peintre de la haute renaissance que nous connaissons. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être ici quelque chose, une sorte de bénédiction qu'avait donné amicale, qu'avait donné Modigliani à Shana Orloff, Pascal Samuel.
Oui, peut-être ce qu'on peut ici souligner, c'est que c'est un dessin assez exceptionnel dans l'œuvre de Modigliani. C'est-à-dire qu'on sait que Modigliani écrivait l'hébreu, avait eu une formation religieuse, et que c'est un des rares dessins qu'il fait où il écrit en hébreu, et que pour rendre hommage quelque part à Shana Orloff dans toute son identité, qui est multiple, il ressent le besoin, il a envie d'écrire, non pas simplement en français, mais de le faire en hébreu, et donc de le renvoyer à la complexité aussi de ce qu'est cet artiste Shana Orloff. Vous parliez au début de cette question des prénoms, et finalement ce glissement entre Chana, Shana, c'est tout à fait lié au déplacement de Shana Orloff, on vient de le dire, de l'Ukraine à la Palestine ottomane, de la Palestine ottomane à la France. Il y a là des migrations, des déplacements, des ruptures. Et finalement, son prénom, l'évolution dont nous prononçons son prénom, est la marque de ces ruptures.
Alors c'est intéressant parce que vous parlez de migration, on a parlé d'émigration, on parle de voyage, on parle de mouvement. Et ce qui caractérise la sculpture, plus que la peinture, ce sont des masses qui parfois ne se déplacent pas parce qu'elles sont éminemment lourdes. Et on a l'impression qu'il y a une dialectique entre la lourdeur et la légèreté chez Shana Orloff, Cécilie Champigny.
Oui, effectivement, c'est cette volonté de traduire dans le volume, dans la matière aussi, des matériaux qui sont lourds, massifs, hein, comme le bois qu'elle aime beaucoup, surtout à ses débuts, mais quand même traduire dans ces matériaux fixes, enfin faits pour l'éternité, si on peut dire, quelque chose de léger, le mouvement.
L'envol.
Shana Orloff s'est beaucoup intéressée au thème des danseuses, de la danse, du corps en mouvement, ce qu'on voulait mettre en valeur dans l'exposition au musée Zadkine. Et elle le fait dans des matériaux, effectivement, dans le bois, ça donne lieu à de très belles œuvres.
Et on y reviendra avec cette idée très moderne et très révolutionnaire d'utiliser aussi le béton, ce qui était complètement nouveau à l'époque.
C'était nouveau, c'était la marque de jeunes sculpteurs qui commençaient leur carrière, donc qui se plaçaient plutôt du côté des avant-gardes. Elle n'est pas toute seule à le faire, mais elle fait partie effectivement des premiers sculpteurs à utiliser ce matériau, qui était aussi sans doute un peu moins cher à mettre en œuvre, parce qu'il ne faut pas oublier que les artistes au début, quand ils n'ont pas encore beaucoup d'argent, donc ils prennent les matériaux là où ils peuvent. On sait aussi qu'elle prenait beaucoup de bois de récupération au début, hein. Certains des très beaux bois qui datent des années 10 sont en fait des bois qu'elle a récupérés comme ça chez des menuisiers. Enfin, il fallait se débrouiller.
Nuit. Les étoiles sont éteintes. Le vent mène sa danse. Comme sur la scène, il hurle, siffle et fracasse. L'oiseau fantastique joue son rôle, œil de hibou, nez d'aigle, aile de paon, fesses de femme. Je marche en tâtonnant, minuit sonne, odeur de soufre et de bois pourri, les éclairs épinent mes yeux, l'homme n'est plus à trouver seul sur la scène des ténèbres, personne ne fraternise avec le sphinx. Alexandre ne paraîtra dans le désert avec la lyre d'Homère. Le poète se bat sans gloire et sans Dieu, avec un sanglant secret des années anciennes. Hélas, je suis le dernier de la race orgueilleuse des imbridables.
Debussy, Clair de Lune, Roxane Elfassi à la guitare, poème de Harry Justman, daté de 1917, intitulé « Vision ». Le poète Harry Justman et la sculptrice Shana Orloff se marièrent en 1916. Qui était Harry Justman, Pascal Samuel?
Alors Harry Justman, c'est un poète, et c'est un poète qui est, j'allais dire, l'alter ego de Shana Orloff. Il naît la même année qu'elle, donc en 1888. Il naît non pas en Ukraine, mais à Varsovie, mais il faut remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire Varsovie, à cette époque-là, c'est également l'Empire russe, on est encore dans cette fameuse zone de résidence des populations juives. Harry Justman, lui, s'exprime, en tout cas, crée en polonais, mais probablement, on peut imaginer qu'il parle également le russe, comme Shana Orloff, et lui arrive dans les mêmes années aussi que Shana Orloff, dans les années, au début des années 10, à Paris, avec la volonté, lui, de devenir poète. Et vraiment, on peut parler d'alter ego, on peut parler d'amitié, de collaboration très, très étroite entre Shana Orloff et son mari, puisque ça se concrétise aussi par la publication d'un ouvrage à quatre mains, c'est-à-dire que Shana Orloff fait les illustrations sur les poèmes de son mari. Alors, ils se rencontrent à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914. La France rentre en guerre, lui va s'engager dans la Croix-Rouge américaine, il va être ambulancier et malheureusement, il décède de la grippe espagnole au début de l'année 1919, peu de temps après la naissance de leur premier enfant. Et du coup, il laisse Shana seule élever cet enfant et Shana se retrouve à la fois donc femme, sculpteur et mère.
Vous venez d'évoquer la naissance du petit enfant. C'est un garçon, un fils qui s'appelle Élie et qui porta toute sa vie, je crois, le nom de Didi, qui eut un enfant, qui eut un rôle essentiel dans la sculpture de Shana Orloff, parce qu'il en fut l'un de ses modèles préférés, ce qui ouvrit le chemin d'un grand nombre de sculptures dédiées de manière générale aux enfants, Cécilie Champy.
C'est vrai que Shana Orloff a été une artiste, mais aussi une mère, et elle avait avec son fils une relation extrêmement fusionnelle, qui transparaît dans beaucoup de ses sculptures. Il y a une petite sculpture notamment qui s'appelle Autoportrait, moi et mon fils, où on a l'impression que la mère et son fils, qui en l'occurrence le petit Didi, ne font qu'un, il est complètement collé encore au corps de sa mère alors qu'il a 9 ans, hein, c'est plus un bébé. Et donc c'est très étonnant, ouais, cette conception de la maternité enveloppante, c'est vraiment la mère protectrice. Il faut savoir aussi que le petit Didi a été handicapé en fait, puisqu'il avait attrapé la polio et donc il en est resté handicapé. Donc ça explique aussi le fait que Shana Orloff ait vraiment dû être très présente. Et c'est assez exceptionnel d'ailleurs de se dire que cette femme a réussi à faire la carrière qu'elle a eue. Hein. Elle a été vraiment une artiste très célèbre et en même temps de s'occuper de ce fils qui lui-même a très bien réussi, hein, malgré ses handicaps. Et donc cet intérêt pour son enfant, le lien avec son fils, transparaît aussi dans le regard qu'elle porte sur les enfants des autres, puisqu'elle ne sculpte pas que Didi. Didi, on le voit grandir dans son œuvre, hein. Elle commence à le représenter à 2 ans. Il y a aussi de très beaux dessins, un dessin qui est montré hommage où on le voit bébé. Et puis on le voit grandir comme ça jusqu'à ses 10 ans. Il y a une sculpture qui s'appelle « Mon fils marin » qu'on montre dans le jardin du musée Zetkin, où on le voit en petit costume de marin. Mais il y a d'autres enfants, et dont beaucoup étaient aussi les camarades de Didi. Par exemple, il y a la petite Ida Chagall qui a dû venir jouer avec Didi dans l'atelier de la Villa Sera. Et c'est un portrait d'enfant extrêmement étonnant, en fait. Parce que les portraits d'enfants de Shana Orloff, ils sont très séduisants. Mais ils ont un côté un peu mystérieux. Et quand vous regardez Ida Chagall, en fait, c'est une toute jeune fille, très jeune fille, prépubère, qui est nue, qui est coiffée à l'égyptienne. Enfin, c'est un portrait assez étrange. Et puis, il y a aussi le portrait de la petite Nadine Fogel, que nous avons choisi pour faire l'affiche de l'exposition et du catalogue au musée Zetkin. C'est un de ses plus réussis, je pense, dans les portraits d'enfants. C'est une petite fille très sage qui se tient les mains croisées avec une petite jupe plissée et puis quand même une étrange coiffure, une espèce de chignon haut là, qui lui donne un air assez étonnant. Et la petite Nadine, en fait, c'était la fille d'un éditeur important de l'époque, Lucien Fogel, que Shana Orloff va représenter aussi et qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière. C'est le directeur artistique de Vogue, enfin, il a compté pour elle. Et sa fille, Nadine, va devenir actrice ensuite. Donc voilà, ce sont des personnages qui ont aussi un rôle important dans le Paris de l'époque.
En 1926, Shana Orloff, ayant très bien gagné sa vie avec des portraits sculptés qui eurent beaucoup de succès, vous venez d'en parler, se fit construire un atelier par Auguste Perret et décoré par Francis Jourdain et Pierre Charot. C'est dans cette villa-atelier que, prévenu par des amis de la rafle du Veldiv de juillet 1942, elle s'enfuit avec son fils et un ami en Suisse, une période importante pour elle et son travail, malgré l'exil, Pascal Samuel.
Alors oui, c'est une période importante pour elle, puis j'ai envie de dire pour tous les Juifs, c'était une période difficile et déterminante. Shana Orloff arrive donc à être prévenue, donc elle ferme l'atelier, elle passe par Grenoble, ensuite par Lyon, ensemble avec son fils évidemment, Didi. C'est-à-dire que c'est un immense moteur, c'est le sujet de son travail, mais c'est le moteur même de son travail, c'est le moteur de sa vie, cet enfant. Et donc, au moment de la guerre, c'est déjà, c'est un homme de 20 ans, et effectivement, ils arrivent en décembre 1942, quasiment à la veille de Noël, à franchir la frontière et à arriver en Suisse. Et Shana Orloff va pouvoir mettre en avant qu'elle a suffisamment d'argent sur elle et la possibilité d'en recevoir de l'étranger pour ne pas être à la charge de la Suisse et donc avoir l'autorisation de rester avec son fils sur le territoire. Et puis donc, une fois qu'elle est arrivée en Suisse, elle se remet très vite au travail, puisque dès le mois de février, Shana Orloff réussit à se remettre à la sculpture et elle va sculpter pendant l'année 43, l'année 44, jusqu'à l'année 45, puisqu'elle n'en rentrera à Paris qu'en août 45. Et ce séjour en Suisse se termine par une exposition à la Galerie Moss qui va lui permettre de remontrer son travail, donc à l'issue de la guerre. Et ça va lui permettre, d'une certaine manière, de repartir, de se remettre en selle pour la poursuite de sa carrière.
Avec son retour à Paris, après la guerre, elle découvre le pillage de son atelier. L'occasion, me semble-t-il, d'évoquer la question de la spoliation par les nazis des œuvres d'artistes juifs, de parler du voyage de ces œuvres et de leur restitution, parfois très longtemps après. C'est le cas d'une des sculptures de Didi, le fils de Shana Orlov, dont nous venons de parler. C'est d'ailleurs le thème de l'exposition Dossier qui a lieu jusqu'en septembre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Quelle est l'histoire de cette sculpture? Et merci tout d'abord de nous la décrire, Pascal Samuel.
Alors effectivement, le MAJ consacre actuellement une salle à cette sculpture donc, qui s'appelle L'Enfant Didi, qui est une œuvre que Shana Orlov fait en 1921, qui représente son fils debout à l'âge de 3 ans. C'est donc une sculpture en pied, une sculpture qu'elle réalise en bois. Et cette sculpture est une parmi tant d'autres. Plus de 140 sculptures vont être volées à son atelier en 1943, donc c'est-à-dire dans les mois qui ont suivi, même dans presque une année, après son départ précipité, sa fuite de Paris. Et donc c'est une œuvre qui, à elle seule, raconte finalement l'histoire du pillage de cet atelier. On ne sait pas quelle est l'administration, quel est le service qui a pillé l'atelier. C'est plus que l'atelier d'ailleurs qui a été pillé, c'est l'ensemble. Le lieu de l'atelier était à la fois le lieu de travail, mais aussi le lieu de vie de l'artiste. Et c'est la totalité de cette maison-atelier qui a été pillée. Quand elle revient en août 45, Shana Orlov commence à faire la liste de tout ce qui a disparu. Et c'est évidemment pas simplement ses sculptures, mais c'est aussi les lits, les tables, les chaises, les petites cuillères. Donc on est là dans une opération de pillage de très grande envergure, on est même, on va dire, dans un vidage complet de son atelier logement. Et c'est un, là aussi, malheureusement, parmi tant d'autres, puisqu'on estime qu'il y a eu 38 000 logements qui ont été entièrement vidés, que les spécialistes estiment qu'il y a eu un peu plus de 800 trains qui sont partis vers l'Allemagne chargés des biens du quotidien, des appartements qui appartenaient à des familles juives et qui ont été complètement vidés. Donc voilà, c'est une sculpture qui à elle seule raconte toute cette histoire. Cette sculpture raconte à la fois l'histoire de l'amour d'une mère pour son fils, mais elle raconte finalement l'itinéraire de ces œuvres qui ont été pillées, qui sont partis. Elle, cette sculpture s'est retrouvée aux États-Unis. Elle est ressortie sur le marché de l'art en 2008. La famille de Shana Orlov a mis 15 ans de négociations, de procédures judiciaires à pouvoir récupérer cette sculpture. Elle est revenue sur le territoire français simplement en janvier 2023. Donc en la montrant au public, au MAJ, avec des textes qui expliquent cet itinéraire, on essaye de raconter une histoire qui finalement dépasse la simple sculpture de Didi pour raconter malheureusement l'histoire du pillage des ateliers d'artistes pendant la guerre et plus largement l'histoire du pillage tout court des populations juives pendant la Seconde Guerre mondiale.
Shana Orlov, une grande voyageuse, voyage qui l'amène aux États-Unis, mais surtout en Israël. Dès les années 1930, hormis la période de la guerre, elle n'arrêta pas de faire l'aller-retour entre Paris et Tel Aviv et contribua d'ailleurs à la création du musée d'art moderne de cette ville avec ses amis, le premier maire de Tel Aviv, Meir Dezingoff, et son épouse Zina. Cette contribution est une part importante et discrète de son œuvre, Cécilie Champy.
Effectivement, elle a gardé des liens très forts avec sa famille, restée dans la Palestine qui deviendra Israël après 1948. Et dès les années 30, elle accueille des personnalités. Elle accueille par exemple le peintre Reuven Rubin, dont elle fait un très très beau portrait qui nous a été prêté par le MAJ, hein, qui figure dans l'exposition au musée Zadkine. Et Rubin d'ailleurs laisse un témoignage, hein, c'est un des témoignages les plus intéressants, les plus émouvants sur la façon dont Shana Orlov faisait poser ses modèles. Il raconte par exemple qu'elle est très généreuse, qu'elle fait la cuisine aussi et qu'il pose dans son atelier. Alors c'est et il se rend compte après qu'il y a son fils derrière un rideau qui attend. Enfin voilà. Donc c'est assez amusant, c'est très très vivant en tous les cas. Et ensuite, dans les années 30, vont commencer la reconnaissance, justement, et on va la solliciter, effectivement, pour créer le musée à Tel Aviv. Alors, on la sollicite, elle, mais on la sollicite aussi pour qu'elle fasse l'intermédiaire avec Chagall, qui est déjà un artiste extrêmement connu et qu'elle va solliciter aussi.
Alors, c'est d'ailleurs en Israël qu'elle meurt en 1968, lors de la préparation de l'une de ses expositions, et c'est en Israël qu'elle est enterrée. Une rue porte son nom à Tel Aviv, une autre à Paris dans le 19e arrondissement. Pascal Samuel.
Alors, ce qui est intéressant dans la période israélienne de Shana Orlov, c'est que ce chapitre israélien, c'est un nouveau chapitre dans la vie de Shana Orlov. C'est-à-dire que 1948, on est dans l'après-guerre. On vient de rappeler que l'atelier a été totalement vidé, qu'elle doit se remettre au travail, qu'elle est alors une femme de 60 ans. Elle n'appartient plus à l'avant-garde. Elle n'est plus non plus vraiment en phase avec l'abstraction qui est devenue le nouveau mouvement à la mode et qui domine la scène artistique. Donc elle est un peu mise de côté, si je puis dire, en tout cas moins visible. Et elle a, je pense, aussi envie et elle a la possibilité de participer à la création de cet état par la sculpture. Et c'est des commandes en Israël qui vont lui permettre de garder et même de développer ce lien qu'elle a avec Israël depuis donc son adolescence et puis la proximité avec sa famille qui est restée là-bas.
Merci Pascal Samuel, merci Cécilie Champy pour la présentation de cette artiste très attachante que je vous propose de continuer à nous faire découvrir la semaine prochaine. Je rappelle l'exposition au musée Zadkine, Shana Orlov, sculpter l'époque, c'est jusqu'au 31 mars, ainsi qu'hommage, musée d'art et d'histoire du judaïsme, l'enfant Didi, itinéraire d'une œuvre spoliée de Shana Orlov, 1921-2023, c'est jusqu'en septembre 2024. Et je rappelle aussi l'exposition permanente et la visite de l'atelier-musée de Shana Orlov, c'est à la Villa Sera dans le 14e arrondissement. Plaisir de la visite de toutes ces expositions assurées. Merci encore mesdames.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Alison Askreidzi. À la réalisation, Alexandra Malka, Coltouve, Le Hitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.